À l'instant, l'arrivée de la première, 15, 16, 3, 13 et 9. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire, et puis n'écoutez pas ce qui va se passer aujourd'hui parce que ça risque pas de vous rendre bonapartiste puisqu'aujourd'hui et demain, nous allons parler de Napoléon et les femmes. La femme est notre propriété, comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Napoléon. Deux mille ans d'histoire. Parce qu'elles appartiennent à la petite histoire, celle qu'on écrit en regardant par le trou de la serrure, les historiens ont beaucoup moins parlé des femmes de Napoléon que de ses batailles. Sa vie privée fut pourtant aussi mouvementée que ses campagnes militaires. En plus de ses femmes légitimes, dont il avait fait des impératrices, et de la plus célèbre de ses maîtresses, Marie Walewska, si connue que tout le monde l'appelait l'épouse polonaise de Napoléon, il y avait aussi les innombrables conquêtes de ce collectionneur de jupons qui a fait entrer dans son lit beaucoup plus de femmes qu'il n'a remporté de victoires sur les champs de bataille. Elles s'appelaient Éléonore, Pauline, Carlotta, Albine, Marie, Giuseppina ou Fanny. On a oublié leur nom aujourd'hui, mais comme beaucoup d'autres, elles étaient prêtes à subir les pires humiliations pour passer une nuit avec ce conquérant qui, pendant 20 ans, a fait trembler toutes les armées d'Europe.
Sire, Mademoiselle Delacroix est arrivée.
Mademoiselle Delacroix ?
C'est cette jeune personne rousse à qui Votre Majesté...
Est-elle vraiment rousse ?
Oh, sire !
Qu'elle soit dans ma chambre.
Elle s'y trouve, sire.
Qu'elle attende. Faites entrer, je vous prie, monsieur le barbet Marbois.
Sire, Mademoiselle Delacroix demande...
Qu'elle se déshabille.
Monsieur le ministre des Finances.
Sire, Mademoiselle Delacroix...
Qu'elle se couche. Je vous avais avisé, monsieur, qu'aucun paiement ne devait se faire à la trésorerie que sur ordonnance de mes ministres.
Mademoiselle Delacroix...
Qu'elle s'en aille.
Michel Decker, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un livre que vous venez d'écrire chez Bellefond, vous rappelez que la scène que l'on vient d'entendre est parfaitement authentique. Hein, c'est une scène extraite du Napoléon de Sacha Guitry. Alors, sauf que cette Mademoiselle Delacroix que l'on vient d'entendre...
En réalité, Mademoiselle Duchesnois.
Voilà, Mademoiselle Duchesnois, qui était une des très nombreuses conquêtes de Napoléon. Alors, on sait qu'il a eu, moi je savais qu'il a eu deux femmes légitimes, Joséphine et Marie-Louise, un amour de jeunesse, Désirée Clary, une maîtresse célèbre, Marie Walewska. Mais alors, j'ignorais qu'il y en avait tant d'autres, parce que si on se contentait de les énumérer, ça nous prendrait toute l'émission.
Oui, absolument.
En amour, c'était un boulimique, Napoléon.
C'est un boulimique, incontestablement, mais ça n'est pas quelqu'un de sensuel. C'est un consommateur de femmes, mais ce n'est pas un grand amoureux. Ça, c'est incontestable. Et il lui suffit, la plupart du temps, de claquer dans les doigts pour que, naturellement, toutes ces femmes soient flattées de venir passer une nuit, soit aux Tuileries, soit à la Malmaison, sous le toit de Joséphine, même, ça lui arrive. Mais il n'est jamais amoureux. Il a été amoureux une fois, peut-être une fois et demie dans sa vie.
C'était le repos du guerrier, en fait.
C'était le repos du guerrier.
Alors, boulimique, mais pas très précoce. Hein. Il est encore puceau, à 18 ans, et c'est avec, d'ailleurs, une prostituée, je crois, au Palais Royal,
dans le quartier du
Palais Royal,
qui
découvre l'amour.
Où on rencontrait toutes ces dames qui, j'allais dire, qui gagnaient à être connues. Et en effet, oui, c'est une jeune Nantaise qui lui provoque ses premières extases sensuelles. Et il le raconte, d'ailleurs, mais il se tait à partir d'un moment, il n'écrit plus. Il raconte simplement le tarif, tout ce qu'il a payé, mais pour le reste, on n'en saura pas davantage. Et c'est apparemment pas une révélation, car il attendra avant de renouveler cette expérience, si je puis dire.
Pas beaucoup de sentiments, pas en tout cas rarement du sentiment. On l'a entendu extrêmement brutal avec les femmes. Hein. Il leur parle franchement, parfois il leur fait parler par son majordome, on l'a entendu dans la scène de tout à l'heure. Comment se fait-il d'ailleurs qu'il ait pu avoir du succès, indépendamment du fait qu'il était premier consul, puis empereur?
Oui, non, je crois que c'est uniquement pour cette raison, c'est-à-dire que toutes ces femmes-là voulaient et espéraient être pensionnées ou rester quelques mois, devenir des maîtresses officielles. Mais il n'a pas eu de maîtresse officielle, hormis peut-être pendant trois semaines ou un mois, une telle ou une autre, mais il n'avait pas de maîtresse officielle, avant la Valeska, bien sûr.
C'était pas, en revanche, il n'était pas prodigieux au lit.
On le dit, enfin, Joséphine raconte que ce n'était pas, un expert du déduit, comme on disait à l'époque.
En tout cas, il y met parfois quand même du sentiment, comme ce fut le cas à Marseille, avec la fille d'un marchand de savon, sa belle-sœur, dont il tombe amoureux en 1795. On écoute un autre extrait du film de Guitry.
Or, vivait à l'époque aux environs de Marseille une famille aisée dont les trois principaux personnages étaient la mère et les deux filles. L'une d'elles, Julie, était donc devenue la femme de Joseph. Bonaparte aussitôt devient amoureux fou de sa jeune belle-sœur, de Désirée Clary, au destin fabuleux. Et durant quelques jours, le soir, au clair de lune, lui déclare son amour à sa façon fort cavalière.
C'est vierge ?
Je dois partir demain. Et je ne partirai pas sans vous avoir juré de vous aimer éternellement.
Je jure de vous aimer éternellement.
France Inter de Milan d'Histoire, aujourd'hui Napoléon et les femmes, et puis cette romance très célèbre de la fin du XVIIIe siècle, Plaisir d'amour. Alors, l'amour qui, en effet, avec Napoléon ne durait pas très longtemps, hein, il est éternel tant qu'il dure, on peut dire, mais en revanche, il est sincère à chaque fois. Par exemple, effectivement, il a demandé Désirée Clary en mariage.
Mais ça, de toute manière, c'est un tic chez lui. Dès qu'il rencontre une jolie femme, jusqu'à cette époque-là, Émilie Laurenti à Valence, etc., systématiquement, il veut se marier. Il veut se marier et il a déjà ce complexe de l'héritier. Il veut un héritier. Ça, c'est systématique. À chaque fois, il se fait éconduire. On lui dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire entrer un petit lieutenant dans la famille. Systématiquement, il était conduit. Mais Désiré, d'abord, il fait son premier coup d'État avec Désiré Clary. Parce que, en réalité, c'est son frère, Joseph, qui était très épris de Désiré. Et Joseph avait prévu que ce fût Louise qui puisse épouser son jeune frère, puisque Napoléon était le cadet. Et il se trouve que Napoléon préférait Désiré. Alors il dit à Joseph, écoute, c'est comme ça, moi je prends Désirée, toi tu prendras Louise, parce que nos caractères correspondent beaucoup mieux, toi tu as besoin de Louise qui est une femme sérieuse, comme tu es un peu volage, etc., etc. Et il fait des serments d'amour absolument passionnés, en effet, à Désirée. Et
on se fiance, hein,
il se fiance, oui, ouais. Tout à fait. Et Madame Clary, mère, qui était l'épouse du marchand de savon de Marseille, car la petite Désirée était une belle petite savonnette, Madame Clary, mère, quand Napoléon n'épousera pas sa fille, soupirera, Dieu merci, on avait assez d'un Bonaparte dans la famille.
Alors, bon, cette Désirée, d'ailleurs, aura un destin formidable, parce qu'effectivement, il va rapidement l'oublier, mais
il va la marier à Bernadotte.
C'est-à-dire qu'elle va devenir reine de Suède.
Elle va devenir, et de Norvège, reine de...
Le roi.
Absolument. Et aujourd'hui encore, il y a des descendants sur le trône de Suède de Désirée Clary, ce qui est quand même prodigieux. Et Bernadotte, lui, on le sait, vous savez, ne pouvait absolument jamais se baigner devant ces gens, ni faire venir un médecin à son chevet, car ce grand révolutionnaire qu'il avait été portait d'un tatouage gigantesque sur la poitrine, tatouage sur lequel on lisait « Mort au roi ».
C'était du temps où il était républicain, effectivement. Alors, Michel de Decker, si ça ne marche pas avec Désiré, c'est qu'entre-temps, il part, il monte, comme on dit, à Paris, à la capitale. Et puis alors, qui est en pleine effervescence, faut rappeler que Robespierre est déjà tombé, que la terreur est finie, qu'il y a le directoire, et parmi eux, d'ailleurs...
Un peu de laxisme.
Du laxisme, et puis brusquement, il arrive justement dans un salon où se déroulaient souvent des parties fines, c'était le salon de Madame Tallien.
Oui, c'était la Chaumière, avenue Montaigne, à Paris, et Madame Tallien, qui était Teresa Cabarrus, la fameuse Teresa Cabarrus, recevait là les plus belles femmes du temps, ses amies. Il y avait Madame de Staël, qui n'est pas très belle, mais qui avait une santé de fer, et Madame Récamier, la fameuse Madame Récamier, que Chateaubriand soupirera toujours de n'avoir pu la connaître intimement. Il la surnommera d'ailleurs l'impénétrable Madame Récamier. Il y avait Madame Crudener, il y avait Aimée de Coigny, toutes ces jolies femmes, elles étaient là tous les soirs, et souvent habillées dans un simple tulle transparent, ce qui rendait évidemment tous les hommes politiques qui venaient passer leur soirée, car c'était en effet des lupercales, hein, ni plus ni moins, dans un état d'effervescence que l'on comprend.
Et il y avait Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie. Alors, ça ne dit rien à personne, mais c'était en fait Joséphine.
Eh bien, c'est la future Joséphine.
Elle ne se prénommait pas Joséphine.
Non, cette petite créole née à la Martinique, comme on le sait, 5 ans avant Napoléon, car elle était l'aînée de 5 ans de Napoléon, avait ses habitudes-là, car elle était pensionnée. C'était, il faut le dire, une demi-mondaine, Joséphine, à cette époque-là, c'est-à-dire une femme qui se donnait, une demi-mondaine, une femme qui se donnait à un homme sur deux, si je puis dire. Et en effet, elle était pensionnée par Barras. Hoche lui versait une pension.
Barras, le personnage très important, il faut le rappeler.
Oui, absolument.
À l'époque, c'était le personnage le plus important.
C'était le grand patron du pays, absolument. Ouais. Barras, bien content de se débarrasser de Joséphine, parce que elle avait 30 ans, et il commençait de trouver qu'elle vieillissait, qu'elle prenait quelques rides sur la poitrine. Alors, il a été ravi de pouvoir s'en débarrasser. Mais c'est vrai que le vieux marquis de Caulaincourt, également, qui a été l'amant de Joséphine, disait, et je le cite, il disait, mais la nature a bien fait les choses, puisqu'elle a placé sous le nombril de la jolie Rose Tachère de la page une petite chose qui lui permet d'acquitter ses dettes.
Alors, cette rencontre avec Bonaparte, ça se déroule, je crois que c'est en octobre, 4 octobre 1795, oui. Vous êtes très précis dans votre livre, Michel de Decker. À ce moment-là, on peut pas dire que Bonaparte l'impressionne. D'ailleurs, il impressionne personne, il a l'air de rien, il est mal habillé.
Mais Joséphine n'est pas impressionnée, mais Bonaparte est impressionné par
elle.
Joséphine.
Oui, mais lui, elle le surnomme le chaboté, etc. Or, Ce chaboté, il prend une sacrée dimension. Le lendemain même de sa rencontre avec Joséphine,
absolument,
il écrase une révolte royaliste à l'église Saint-Roch. Oui. C'est en Vendémiaire, c'est-à-dire le 5 octobre 1795. Et c'est avec cet exploit, si on peut dire, entre guillemets, parce qu'il a quand même tiré au canon.
Avec les canons de Murat, car Murat est déjà là, oui, tout à fait.
Cet exploit fait qu'il a une autre dimension quand il arrive, quelques jours après, se présenter donc chez Joséphine.
Vous êtes martiniquaise ?
Oui.
Et vous êtes née de la Pagerie ?
Oui.
Vous êtes mariée à 16 ans avec le général de Beauharnais, guillotiné sous la Terreur, et qui vous a fait 2 enfants. Vous les aimez ?
Je les adore.
Elle est sympathique, votre vieille négresse.
Je l'aime beaucoup depuis qu'elle m'a prédit que je serais reine de France.
Il n'y a pas de quoi rire. Une question encore, la dernière. Quel est votre âge ? Quoi, si c'est pour vous épouser ?
J'ai 32 ans.
Et moi 26. À la mairie, tu en auras 6 de moins et moi 3 de plus. Et nous finirons bien par nous rencontrer. Mon Dieu, que tu es jolie, que tu me plais. Je t'aime.
Et c'était la demande en mariage par Bonaparte à Joséphine. Hein. C'est vraiment très militaire, cette façon de demander la main de Joséphine. Dans quelles circonstances? Pourquoi est-ce que brusquement elle fond devant ce il est quoi à ce moment-là?
Il est général.
Il est général. Il vient d'écraser, effectivement.
Oui, absolument. Général Vendémiaire, le fameux général Vendémiaire. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que Barras l'a congédié, qu'elle n'a plus personne pour s'acquitter de ses dettes. Et puis, d'autre part, elle se dit que peut-être est-il promis à quelque avenir. Donc, elle l'accueille dans son petit appartement de la rue Chantraine. Et puis lui, il est sous le charme, évidemment.
Il faut rappeler un épisode, c'est que lui, le général Vendémiaire, qui a écrasé la révolte royaliste, vient donner à Joséphine, ou plutôt à son fils, au fils de Joséphine, qu'elle avait eu de son premier mariage, Eugène, l'épée de son père.
Oui, ça, il est très malin. On avait conservé l'épée, et il est allé reporter cette épée à Eugène de Beauharnais. Alors Joséphine, évidemment, est émue. Elle se dit, mais il est bon, c'est un gentil garçon, somme toute. Oui. Elle l'accueille, et puis ils vont se marier. Vous savez que la nuit de noces, d'abord le mariage.
Alors le mariage, vous le racontez, c'est quand même extraordinaire.
Le mariage est
un type expéditif, Bonaparte. Mais ce jour-là, hein, c'était en mars 96, à la mairie du deuxième, il a 2h30 de retard.
Joséphine
attend pendant 2h30.
Et puis tout est faux. Ouais. Seul le retard est vrai, si je puis dire. Les témoins ne sont pas en âge de témoigner. Le maire dormait profondément, on ne sait même pas s'il était en état de paraffer. Ouais. Joséphine se rajeunit de quelques années. Les papiers de Bonaparte ne sont pas les siens, mais ceux de son frère. Enfin, si on épluche tout le dossier du mariage, on s'aperçoit que le mariage ne tient pas.
Alors il est en retard, mais il est très pressé, parce que le lendemain, Barras l'envoie en Italie, hein, c'est ça sa première grande expédition.
Avec le secret espoir, militaire. C'est incontestable, qu'il soit battu avec...
Oui.
Il héritait quand même une armée de gueux et de dépenaillés, n'est-ce pas? Et Barras se disait, on n'en entendra plus parler, c'est incontestable. Hélas, enfin, ou tant mieux pour Bonaparte, hélas pour Barras.
Oui, parce que ça c'est une succession de victoires, alors au milieu desquelles, il passe son temps à écrire à Joséphine, qui lui manque, hein, il lui demande de venir. C'est vraiment, en plus c'est une passion charnelle, certaines de ses lettres pourraient être classées X. Il est vraiment complètement subjugué, la présence physique de Joséphine lui manque.
Elle lui a tout appris, il le lui dit d'ailleurs à Joséphine, il dit mais où avez-vous appris cet art d'aimer, comme selon Ovide. Elle lui dit mais je n'ai jamais rien appris, c'est vous sans doute qui m'inspirez, lui répond-elle. Il la croyait. Et pendant qu'il est en Italie, évidemment, elle le trompe, j'allais dire à tour de bras, mais c'est vrai, avec un joli lieutenant, qui était beau comme un dieu grec, le lieutenant.
Il y a eu des aventures, et même, vous dites même que Murat, il y a eu quelque chose entre Murat et elle, et puis alors ce lieutenant...
Le lieutenant Hippolyte Charles.
Alors était... voilà, qui c'était ce lieutenant?
C'était un personnage qui était très beau, très bien fait, et beaucoup plus apte à passer de folles nuits avec Joséphine que ne l'était Napoléon, puisqu'on a vu qu'il n'était pas très expert, alors que Hippolyte Charles faisait les folles nuits de Joséphine, et il aurait fait les beaux jours de l'Almanach Vermont aussi, puisque c'était un individu un petit peu bizarre, qui disait à Joséphine de son mari, mais je trouve que votre mari est sans gêne, puisqu'il reste sur le pot. Allusion à la ville de Gênes.
Et le fleuve Le Pau, c'est vraiment du calembour.
Mais complètement. Alors, et il lui dit, mais je ne comprends pas que vous aimez quelqu'un qui veut avoir 1000 ans. Et Joséphine riait à gorge déployée, une gorge qu'elle avait très belle d'ailleurs.
Alors, Michel de Decker, quand même, c'est lui qui est sans gêne, parce que elle finit par céder, elle refuse, elle dit, je ne vais pas te rejoindre en Italie, c'est trop dangereux.
Barras exige, car Napoléon dit, je rentre en France si elle ne vient pas en Italie.
Et c'est Barras qui, pour soutenir le moral de son général qui est en train de se courir de gloire, lui dit, vas-y, et alors elle y va avec
son amant, naturellement. Oui.
Mais à aucun moment il s'est doté de quelque chose. Vous dites qu'au moment, par exemple, de la bataille d'Arcole, au moment où il se couvre encore de gloire, elle est avec Hippolyte Charles sur le lac de Côme.
Le parfait amour sur le lac de Côme, absolument. Bon, le moment viendra où il le saura, puisqu'il tentera même de le faire condamner à mort, Hippolyte Charles. Et puis bon, ça va s'arranger.
Oui, parce qu'il le fait, parce qu'en plus c'était un truand, ce Hippolyte Charles. Et elle et lui, d'ailleurs, avaient un rôle un peu bizarre, parce que je crois qu'il y avait une affaire de fourniture aux armées.
Voilà. Qu'il détournait subrepticement.
C'est la raison pour laquelle il l'a fait arrêter.
C'était le vrai prétexte, mais secrètement, il voulait quand même se venger de l'amour que Joséphine pouvait porter à ce sous-officier qui n'était pas très intelligent, il faut le dire.
Alors ce n'est qu'un an plus tard, alors qu'il est reparti dans une autre expédition en Égypte, que Bonaparte apprend son infortune.
Dis-moi, Junot, je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Dans les lettres que tu reçois de Paris, comment te parle-t-on de ma femme?
Vous m'embarrassez fort.
Parle!
Il paraît qu'elle vous trompe assez ouvertement. Maladroit ou non, j'estime que mon devoir est de vous en informer. Car je ne puis admettre que la femme d'un aussi grand homme que vous le rende ridicule. Si tout Paris n'en parlait pas, je ne me serais pas permis d'en faire l'écho.
Est-ce qu'on cite un nom?
N'en cite qu'un seul. C'est ce qui me semble grave.
Barras encore?
Non, c'est fini, Barras.
Alors qui?
Hippolyte Charles.
Ce petit blondin que j'ai chassé de l'armée d'Italie? Mais voyons, c'est impossible!
Il habite à la Malmaison.
Je divorce aujourd'hui, et vous en êtes les témoins.
Alors ça, c'est Bonaparte en Égypte. En fait, il divorcera pas tout de suite, qui apprend brusquement que Hippolyte Charles et Joséphine filent le parfait amour. Alors, il n'y a pas qu'à Paris qu'on parle beaucoup de l'infortune de Bonaparte. Il y a aussi, vous le dites, à Londres. Nous sommes en guerre, évidemment. L'Angleterre a littéralement coupé l'armée d'Égypte de la France, et on fait des gorges chaudes à Londres.
Oui, parce que toute la correspondance que Bonaparte envoie à Joséphine est interceptée par la flotte britannique, et les Anglais vont publier ça dans le Morning Chronicle, si bien que l'Europe entière sera au courant des mésaventures conjugales du général Abou Naparte, comme on l'appelait à cette époque-là. Alors évidemment, il sort de ses gonds, et à ce moment-là, il décide, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tout change, puisqu'elle me trompe, je vais la tromper. Et il commence de la tromper en Égypte.
Oui, effectivement, alors là apparaissent des femmes, il y en aura beaucoup d'autres, dont on a vraiment totalement oublié le nom aujourd'hui. Il y a d'abord une Égyptienne dont le sort sera assez tragique, d'ailleurs une jeune égyptienne qui était la fille d'un cheikh de l'endroit, c'est ça?
Oui, oui. Zainab. Et quand la famille apprendra qu'elle s'est donnée au général français, eh bien, on l'exécutera tout simplement.
Après le départ de Bonaparte.
De Bonaparte.
Et puis alors,
il y aura Pauline,
Pauline Forest,
qui est une petite malicieuse. belle comme une déesse, il n'y a pas de doute, mais qui réussit. Elle venait de se marier avec le soldat Fourès, et Fourès est obligé de partir dans la campagne d'Égypte. Elle se dit, mais enfin, c'est pas possible, je vais pas abandonner mon mari, je viens de l'épouser il y a 8 jours. Elle se déguise en soldat, et elle traverse la Méditerranée déguisée en soldat. Et quand Napoléon la découvre, dès qu'elle a mis son joli pied menu dans le sable égyptien, il dit, mais enfin, il y a une femme, une Française ici, comment c'est possible? Alors elle lui explique, elle essaye de se faire pardonner. Et Napoléon est sous le charme. Il l'invite à sa résidence. Elle lui dit, enfin, vous n'y pensez pas, tout de même, je viens de me marier. Mais le deuxième soir, il lui offre un collier. Elle commence de sourire. Le troisième, il lui offre un bracelet en plus du collier. Elle sourit à gorge déployée. Et le quatrième soir, Napoléon renverse une carafe d'eau sur sa robe et lui dit, suivez-moi, je vais réparer les dégâts immédiatement.
Ah, il était quand même courtois, hein. Bon, un peu rusé. Et puis surtout, il lui propose le mariage. Elle aussi, oui, il est marié, mais voilà, il lui propose le mariage.
Il lui dit, si tu me fais un enfant, voilà,
parce
je
que ça, c'est la grande préoccupation. Ah, on en reparlera demain, c'est ça. Et alors, elle fait tout pour essayer d'avoir un enfant, ce qui ne se passe pas. D'ailleurs, ce qui fait que Napoléon a longtemps été persuadé qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, cette Pauline Fourès, qu'on appelait la Cléopâtre
d'Abou Naparte,
il refuse de l'amener en France lorsqu'il décide, lui, de quitter son armée et de rentrer précipitamment en France.
Sous prétexte qu'elle courrait trop de risques. Mais en fait, je crois qu'il était ravi de retrouver Joséphine. Même si toute la famille
préparait. Alors voilà, toute la famille. Parce que il faut rappeler que dès le début, en fait, sa famille, la famille de Bonaparte, détestait Joséphine.
Absolument. Hein,
Laetitia, la mère de Bonaparte, l'appelait sa putana, c'est ça?
Absolument, oui. Et les frères, les sœurs, tout le monde, il y avait une conspiration familiale contre Joséphine. Et on attend le retour de Bonaparte pour lui dire, il faut que tu divorces.
Et effectivement, ce sera alors une scène mémorable dont vous parlez aussi dans votre livre, Michel de Decker. Parce qu'il faut rappeler, Joséphine, effrayée du retour de Bonaparte, essaye d'aller à sa rencontre vers le midi, mais
ils n'empruntent pas la même route.
Ils n'empruntent pas les mêmes routes, si bien qu'il arrive avant elle, donc à Paris, dans leur domicile de la rue Chantraine, où Joséphine
devenue
arrive à
rue
son
de la Victoire.
Oui.
C'est elle?
Oui.
N'auriez-vous même pas jusqu'à me conseiller d'être indulgent à son égard?
Je ne me permettrai pas. Mais qu'à l'heure actuelle, vous puissiez consacrer ne fût-ce qu'une minute à des problèmes conjugaux, j'ai de la peine à le comprendre.
Je te supplie de me laisser entrer une minute, et tu vas tout comprendre. Je t'en supplie, ouvre-moi.
Il ne lui répond pas.
Quelle volonté il a.
Oui, c'est affreux.
À quel chiffre s'élèvent les dettes que vous avez contractées en mon absence? Répondez.
Peut-être 1 million.
Et c'était Michel Morgan dans le rôle de Joséphine, retrouvant son mari Bonaparte, joué par Daniel Génin. Alors une scène très connue, hein, Joséphine est pleurée devant Bonaparte qui ouvre la porte, et puis finalement il lui demande pas seulement quelles sont ses dettes, non seulement il lui rembourse, mais il la reprend dans ses bras. Alors c'est vraiment, on sent bien quand même qu'il y a de l'amour aussi, un amour très profond. Toute sa vie, il l'a appelée l'incomparable, Joséphine.
Oui, je crois que c'est véritablement celle qu'il a aimée jusqu'à son lit de mort, il le dira. Bon, il sera contraint de divorcer, mais Joséphine, d'ailleurs les grognards eux-mêmes, on le sait, quand il annoncera son divorce, les grognards diront « Ah, elle lui a porté chance, maintenant ça ira mal ». Mais il a aimé Joséphine, c'est incontestable. Et elle était très belle aussi, Joséphine. Il ne fallait pas qu'elle sourie, car elle avait les dents cariées, c'était une rangée de chicots noirâtres, mais sinon elle était très belle.
Alors, cela dit, à partir de ce moment, de son retour, même s'il lui pardonne, les rapports vont changer entre elle et lui, et ce n'est plus tellement lui qui devient jaloux des amants de Joséphine, mais c'est elle qui prend des crises de folie, parce que il multiplie, là, les conquêtes, il y en a tellement, on ne va pas toutes les citer, mais enfin, il aimait particulièrement le monde du spectacle.
Oui, il fait dans le showbiz, absolument, avec un certain nombre de chanteuses, de comédiennes, la Grassini qu'il avait connue en Italie, qui était une manière de Callas du temps, qui tenait bien le contrute. Il y a eu beaucoup d'actrices, la Duchesnois, qu'on en a vu tout à l'heure, celle qui devait se coucher, attendre, se déshabiller, etc., et qui repartait. Il y a eu la fameuse mademoiselle Georgina, qui était célèbre à l'époque, elle avait 18 ans, elle était très grande, elle avait surtout de très grands pieds, on disait qu'elle avait un port de reine, mais des pieds de roi. mais il l'a beaucoup aimé pendant 3 semaines, 1 mois, et un jour, il en aura marre, il dira, ce soir, je ne vous aime plus, vous êtes laide, il va lui enfourner une poignée de billets de banque dans la poitrine, qu'elle avait superbe, et puis ça sera fini avec Mademoiselle Georges. Enfin, elles sont nombreuses, comme ça, avec une autre, au débeauté, à la Malmaison, il l'a fait venir à la Malmaison, c'est la petite branchue, et il lui arrache sa robe en disant, quel beau lever de rideau. Enfin, vous savez, c'est
effarant, vraiment, quand on entend tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, quand on voit la façon dont il se comporte avec elle, vraiment,
ça n'est pas un sentimental,
la majeure partie d'entre elles, c'est pas un sentimental, c'est franchement, il y en a d'autres, mais c'est vraiment un aspect assez détestable même du personnage.
Mais oui, mais je crois que rien ni personne ne devait lui résister, ouais. C'est comme ça qu'il s'est fait.
Alors évidemment, on pourrait nous reprocher, on reproche beaucoup à des historiens qui en parlent de faire de la petite histoire. Est-ce que ça a quand même beaucoup compté? Est-ce qu'il cloisonnait beaucoup sa vie privée et sa vie publique? Et est-ce que sa vie privée agitée, sa vie sentimentale interférait sur sa vie publique?
Naturellement, mais je crois que de toute manière, l'histoire des femmes dans l'histoire en général est essentielle. Ce sont les femmes qui ont fait l'histoire. Et on l'a vu il y a un instant. Il a été sur le point de tout plaquer, la campagne d'Italie, parce que Joséphine était loin de lui. Donc, certainement, les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans la vie de Napoléon.
Dans le cas, c'était plutôt vraiment un rôle de figurant. D'ailleurs, vous citez une très jolie phrase, justement, de Mademoiselle Georges, cette actrice qu'il quitte. Nous sommes, je crois, en 1804. Et alors, elle a cette formule très jolie. Il m'a bêtement quitté pour aller se faire empereur.
Oui,
c'est juste
fait,
avant
fait, oui.
Le couronnement. Bon, mais c'est quand même...
Mais je crois que c'était nécessaire à son équilibre. Il lui fallait des femmes, vous savez, que ce soit, par exemple, la petite Gazzani, qui était l'actrice qu'il rencontre à Gênes.
Ah oui, c'était des lectrices, la plupart du temps.
Il a fait dans le showbiz et chez les Ancillaires, dans les Amours Ancillaires. Petite Gazzani avait 15 ans, il l'a nommée lectrice de Joséphine, mais elle ne savait pas lire un traître mot. Ouais. C'est pas grave, il l'amène à Paris, il nomme son mari receveur des impôts dans le département de l'Eure, et il vit une petite passion de 8 jours avec elle.
Alors Joséphine, quand même, qui finit par s'y résigner, ce qui n'empêche pas non plus Bonaparte de son côté de la faire impératrice, donc en 1804, et mais de continuer avec un certain nombre d'aventures dont nous parlerons avec vous, Michel de Decker. Demain, je rappelle tout de suite que pour en savoir plus, eh bien on peut lire votre livre Napoléon, les plus belles conquêtes de l'empereur, un livre publié écrit avec beaucoup d'humour, Michel de Decker, comme vous venez de le faire en nous parlant aujourd'hui, un livre donc publié chez Belfond. Vous avez pu entendre des extraits du Napoléon de Sacha Guitry avec Michel Morgan dans le rôle de Joséphine, Daniel Gélin dans celui de Bonaparte et Raymond Pellegrin dans le rôle de Napoléon. Vous pouvez retrouver toutes ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas et Benjamin de la Gâtinais qui étaient à la technique, à Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser pour la documentation, et à Anne Kobila qui réalisait cette émission. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald avec Musique Express. Bonjour Eric.
Bonjour Patrice et à demain.